science.
Et on commence ce journal des sciences avec une étude parue dans Nature Geoscience. Il y aurait un océan liquide sous la surface de Pluton.
Sous la surface gelée de Pluton, dès qu'on parle d'eau liquide, il y a toujours une grande excitation. Ici, ce n'est qu'une étude théorique réalisée grâce aux données collectées par la sonde New Horizons. En 2015, la sonde de la NASA avait survolé la planète naine la plus éloignée de notre système solaire. Géologiquement déjà, on supposait que la structure en couche de Pluton pouvait contenir une couche liquide. Sur la plaine de Spoutnik, une plaine très lisse de glace d'azote, on voit des cellules de convection. Il y a de la glace d'azote en quelque sorte qui bouillonne. Pour expliquer ce phénomène, les astrophysiciens japonais ont retracé l'évolution thermique et structurelle de la planète naine. Les simulations nous disent qu'il peut y avoir une couche liquide sous certaines conditions. Il faut rappeler quand même qu'à la surface de Pluton, il fait moins 220 degrés. Donc une question, si cet océan existe, pourquoi ne serait-il pas gelé? Réponse avec Alain Doré-Sundiram, astrophysicien à l'Observatoire de Paris.
On sait que sur Pluton, à la surface, on a une surface gelée constituée principalement de glace d'azote, de glace de méthane et de glace de monoxyde de carbone. Et on dit aussi que dans une étude théorique, Pluton serait constitué d'un cœur rocheux qui serait à 70% en masse et puis le reste un manteau de glace d'eau. Et donc si entre la roche et la glace, si on incorpore une couche de clathrate, alors ils annoncent le terme de clathrate hydraté, donc ce sont des cages d'eau, donc c'est qu'il y a de l'eau, dans laquelle vous mettez à l'intérieur de ces cages, structure cristalline, donc une cage, des atomes de méthane, vous avez donc un autre composé, et ce composé, il est très isolant. Donc, à la base du manteau de glace d'eau, ils mettent dans leur simulation donc des clathrates de méthane, et ça pourrait donc isoler ce gros manteau gelé de glace d'eau du noyau rocheux qui, lui, est encore à de la chaleur, l'énergie résiduelle, donc qui permettrait d'avoir cette couche liquide d'eau.
À Hawaï, les biologistes marins ont découvert l'existence d'un super corail capable de résister au blanchissement.
Le blanchissement, c'est lorsque les coraux dépérissent, lorsque l'eau devient trop chaude ou trop acide. Et ces super coraux viennent de la baie de Kaneohe à Hawaï. Et il faut savoir que ce récif corallien a été dévasté dans les années 30 jusque dans les années 70, qu'ils étaient presque sur le point de disparaître. Hawaï rejetait ses eaux usagées dans cette baie. Du moment où la pollution a cessé, au cours des 20 dernières années, les coraux se sont développés de façon très rapide. Le récif a récupéré de 50 à 90% de sa superficie. Alors pour comprendre cette évolution, les biologistes d'Hawaï ont donc mené une expérience en aquarium avec trois espèces coralliennes provenant de deux zones distinctes. Pendant 3 mois, ils les ont exposées à des pH différents et à des températures élevées. Ce qu'ils ont constaté, c'est que cette espèce de corail était particulièrement tolérante au stress thermique. Aline Tribollet est chargée de recherche à l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement. Pour elle, cette étude pose de nouvelles questions sur la capacité des coraux à s'adapter.
Les coraux, en fait, ce sont des animaux qui vivent en symbiose avec des petites algues qui vivent dans leur tissu, qu'on appelle les zooxanthelles. Et donc, en moyenne, quand on parle des coraux tropicaux, les zooxanthelles, donc les symbiontes qui habitent dans les tissus, apportent plus de 90 à 95% de la nourriture aux coraux. Ils émettent l'hypothèse, qui est basée sur des articles qui ont déjà été publiés, que les coraux résistants à la température posséderaient des zooxanthelles plus thermorésistante, c'est pas forcément l'explication principale. Il y a clairement des différences entre les espèces coralliennes qui vont être capables de résister au changement climatique et d'autant plus qu'ils vont être dans des zones récifales qui sont déjà fortement perturbées. En fait, il semblerait quand même que les coraux qui sont déjà dans des zones perturbées, ils semblent plus résistants à la température et à l'acidification parce qu'ils sont déjà exposés à des variations d'environnement importantes. Alors que les coraux qui sont dans des récifs, on va dire, éloignés de tout et qu'on appelle, nous, les scientifiques, des récifs plutôt préservés des activités anthropiques locales, en fait, ceux-là semblent beaucoup plus sensibles. Après, on a du mal à prédire aussi l'avenir parce qu'on connaît très peu donc les capacités d'adaptation et d'acclimatation de ces coraux. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'études sur ce sujet-là. Et d'autre part, on n'a jamais vu dans l'histoire en fait à la fois l'augmentation de la température et de l'acidification de l'eau de mer en même temps sur des temps aussi rapides.
Allez, pour tout comprendre sur ces phénomènes de blanchissement des coraux, on vient de vous mettre le lien sur le fil Twitter de l'émission vers l'émission La méthode que nous y avions consacrée, le scandale du blanchissement. C'était en 2017. Vous pouvez retrouver tous ces liens sur le fil Twitter de l'émission @laméthodefc. En bref, selon une étude publiée dans Proceedings of the National Academy of Sciences, la hausse du niveau des mers pourrait atteindre 2,40 m à la fin du siècle, Natacha.
C'est le pire scénario, hein. Si rien ne change et si les émissions de CO2 ne baissent pas. 2,40 m, c'est deux fois plus que les prévisions du GIEC en 2013. Le GIEC estimait une élévation du niveau des mers à 98 cm. L'étude précise que l'on a mal anticipé, voire sous-estimé les conséquences de la fonte des glaciers du Groenland et de l'Arctique, une fonte qui, on le sait, s'accélère. L'élévation du niveau de la mer pourrait donc entraîner l'immersion d'environ 1,79 million de kilomètres carrés de terre. C'est aussi grand que la Libye. Et selon cette étude, New York, Londres et Shanghai sont menacés.
Une nouvelle étude dans les actes de la National Academy of Sciences revient sur l'intelligence des corbeaux. Ils seraient sensibles aux émotions négatives de leurs comparses.
On sait que chez les mammifères, il y a une contagion émotionnelle, que les animaux peuvent être affectés par l'émotion d'un autre. Mais chez les oiseaux, c'est moins évident à prouver. Déjà, il est difficile de lire leurs émotions. Il n'y a pas de mimique faciale, par exemple. Alors, pour la première fois, des chercheurs ont essayé de voir si un état de déception, de frustration manifeste chez un corbeau était perçu par un autre, par un observateur, et si cela l'influençait. Ils ont fait une expérience. Un corbeau, sous le regard d'un autre, devait choisir entre des boîtes dans lesquelles était cachée de la bonne nourriture ou sinon des carottes, un aliment qu'il déteste. L'expérience a montré que le corbeau observateur perçoit l'hésitation et la frustration de son compère et surtout qu'il reproduit ensuite son comportement. Il met par exemple plus de temps à s'approcher de la boîte décevante. On ne peut pas tout à fait parler d'empathie, hein, attention à l'anthropomorphisme, mais bien de contagion émotionnelle chez ces oiseaux. Valérie Dufour est chercheuse au CNRS et étudie la cognition animale. Elle travaille sur l'intelligence des corvidés.
Le fait de générer une émotion négative chez un individu par l'observation du congénère, ça, je trouve ça vraiment très très intéressant. Et ça n'a pas été montré avant chez les oiseaux. Ce qui est compliqué à déterminer, c'est est-ce que c'est bien l'émotion de l'autre qu'il comprend, ou est-ce que c'est simplement une contagion de comportement. Est-ce qu'il est, il observe le comportement de l'autre qui est frustré, et lui, il ne fait juste qu'imiter les comportements de l'autre, sans pour autant ressentir la frustration. Donc ça, c'est la grande question qu'on a en biologie quand on s'intéresse à la contagion émotionnelle. Et c'est pas vraiment de l'empathie, ça. Si jamais on ne fait qu'imiter un comportement, ça veut pas dire qu'on ressent la même chose. Donc c'est pas de l'empathie. Et avec les corvidés, je fais toujours attention parce que on a vu des très très belles études où on avait des résultats vraiment proches de ce qui se passe chez les grands singes. Sauf que quand on fait les bons contrôles, on se rend compte qu'en fait, une grande partie des compétences sont liées à des apprentissages très rapides et non pas à des compréhensions du phénomène, de la cause, de la conséquence. Donc, peut-être qu'ils en sont capables, mais il y a beaucoup d'études qui étaient très favorables par rapport à leurs compétences cognitives, qui étaient vraiment très, très, très encourageantes, qui finalement sont démontées au fur et à mesure. Donc, dès qu'on a réplication, on est sûr que c'est ça. Donc là, ce qu'il faut maintenant, c'est toujours la même chose, c'est une réplication par une autre équipe de ce type d'étude. Mais je pense que ce sera fait parce que c'est vraiment intéressant et c'est un joli moyen d'évaluer cette contagion émotionnelle.
En bref, l'étude parue dans la revue American Journal of Psychiatrie, voilà, on va y arriver, affirme qu'il n'existe pas de gène de la dépression.
Et cela fait 20 ans que l'on cherche un lien entre dépression et génétique. Et là, c'est un travail de grande ampleur, hein, puisqu'il a recoupé les résultats de nombreuses études et croisé les données de 443 000 personnes. L'analyse de 18 gènes, le plus souvent associés à la dépression dans plusieurs publications, a montré qu'aucun d'eux n'était impliqué dans la maladie.
Une étude publiée mardi dans Astronomy and Astrophysics montre qu'une famille de comètes contient de l'eau similaire à celle présente sur Terre.
Les comètes dites hyperactives pourraient être à l'origine de l'eau sur notre planète. La nouveauté de cette étude, c'est que ce n'est pas la glace à la surface des comètes qui a été analysée, mais la glace libérée dans leur halo lorsqu'elle s'approche du Soleil. En mesurant le rapport entre le deutérium et l'hydrogène, qui forme avec l'oxygène la molécule d'eau, les chercheurs ont trouvé la même composition chimique de l'eau présente sur Terre. L'étude relance donc le débat sur l'origine de nos océans.
Et pour conclure, comme chaque semaine, par notre rubrique de sciences improbables, cette semaine, cette question posée dans le journal de la gastronomie gastro-entérologie, ça vous donne tout de suite un indice sur la nature de ce qui va être évoqué dans quelques minutes. Pourquoi le café est-il laxatif, Natacha ?
Pour mieux comprendre pourquoi cette boisson accélère la digestion, les gastro-entérologues ont fait boire du café à des rats pendant 3 jours. Ils ont constaté que le café augmente la contractilité des muscles de l'intestin grêle et du côlon. Et ça ne dépend pas de la caféine, hein, le même résultat avec du décaféiné. Alors, même constat aussi en laboratoire, dans les boîtes de pétri, les tissus musculaires de l'intestin se contractent lorsqu'il est directement exposé au café. Et les crottes des rats ont aussi été analysées. Surprise, on trouve moins de bactéries dans les selles de rats qui ont consommé du café. Un des auteurs déclare, cela signifie que le café pourrait peut-être être un agent antibactérien.